si vous perdez un bébé, c'est ça aussi la vision de la société aujourd'hui, vous perdez un bébé avant que ça se voit, avant que ça se sache, avant que la sécu vous reconnaisse enceinte, c'est-à-dire bah, à partir de l'entrée dans votre deuxième trimestre de grossesse, concrètement, officiellement, vous n'êtes pas enceinte. Et en plus, il ne faut pas le dire.
C'est un phénomène fréquent. Une femme sur quatre vivra une fausse couche. 10 à 15% des grossesses s'arrêtent spontanément dans les 3 premiers mois. On appelle ça communément une fausse couche précoce. La dénomination même pose problème, car rien n'est faux dans une fausse couche. C'est au contraire très réel, très concret. On parlera plutôt d'arrêt naturel d'une grossesse, de grossesse arrêtée ou de perte de grossesse. Mais quel que soit le terme utilisé, c'est encore à notre époque un sujet tabou qui isole et culpabilise.
La première chose qu'elles se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que la grossesse s'arrête? En quoi je suis responsable de cette fausse couche? Est-ce que j'ai bu trop de café? Est-ce que j'ai fait du sport? Est-ce que j'ai fait un voyage? Est-ce que c'est de ma faute? Alors là, on les rassure, elles ne sont pas responsables, c'est Dame Nature qui a fait ça, c'est comme ça.
Le silence entoure souvent cet événement qui n'a pourtant rien d'anodin. Il y a aussi la tristesse, la colère parfois et la peur pour la grossesse suivante. C'est pour certains couples un épisode qui peut s'avérer éprouvant, aux conséquences physiques et psychologiques. Le sujet est souvent minimisé, y compris par les proches. On commence à peine à se questionner sur notre rapport individuel et collectif à cet événement et à s'interroger sur une véritable prise en charge adaptée.
J'ai été tellement surprise par le fait qu'on me dise ben voilà votre ordonnance pour les antidouleurs et basta. Donc on était très sur du physique, mais je me disais mais moi dans ma tête je vais pas bien en fait. Je n'avais aucune idée de à quelle porte taper. Enfin c'est pas facile en fait. Et je me suis dit là je peux pas y aller toute seule. C'est pas possible.
Notre reportage commence dans le cabinet d'une gynécologue, le docteur Joël Ben Simon, installé dans le 12e arrondissement de Paris. Sabrina et son compagnon Mehdi ont rendez-vous. Ils attendent leur premier enfant, mais les deux précédentes grossesses de Sabrina se sont interrompues spontanément dans les premières semaines. Fausse couche précoce, vraie souffrance. Un reportage d'Amélie Tullet, à la prise de son, Virginie Lorda et Stéphane Foulon.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour, venez, on y va.
Ça va
bien?
Ça va.
Donc on s'était vu il y a un mois.
Oui.
Je suis en train d'écouter le cœur du bébé et on remarque que le rythme cardiaque est très accéléré, ce qui est normal et qui est très différent de celui de la maman puisque celui de la maman est beaucoup plus lent. Et donc, quand c'est bien tapé comme ça, on se dit que c'est bien, que le bébé va bien.
Ça me soulage. On se détend aujourd'hui, tout va bien encore. Quoi. Mais j'ai ce, vous voyez, tout va bien encore. Et ça, je pense que si ça avait marché les 2 premières grossesses du premier coup, j'aurais pas dit ça. J'aurais été un peu plus euphorique, un peu plus dans l'émotion. Là, je suis juste... Bon, oui, je veux bien qu'on contrôle. Ça me fait toujours du bien, en fait. Comme ça, je sais qu'elle est là. Alors, je m'appelle Sabrina Dos Santos. J'ai 36 ans. Et je travaille dans les ressources humaines. Alors, je termine mon 5e mois de grossesse.
C'est votre premier bébé?
Oui.
Mais ce n'est pas votre première grossesse?
Non. Une grossesse que j'ai mis à terme parce que il le fallait, que je regrette pas du tout. Et puis, 2 autres grossesses. Alors, une qui est venue par surprise, mais qu'on a décidé de garder. Sauf que malheureusement, à 8 semaines de grossesse, j'ai une fausse couche. Et 2e grossesse, il n'y a pas très longtemps, en mars 2021, où là j'ai fait une fausse couche beaucoup plus précocement. Sur le moment, on est très surprise, on est déçu, Et ensuite, y a la période de colère qui vient tout de suite après, et on comprend pas, et pourquoi, est-ce que c'est moi, et voilà. Et, je pense qu'après, il y a toutes les questions qui arrivent, qu'on se pose, nous, en tant que femmes, et seules, en fait. Et ça cogite. 3, 4, 5, 6 mois, un an après, je sais pas pourquoi, mais je vais y repenser.
Le mot fausse couche, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je comprends pas ce mot-là.
Du coup, comment vous en avez parlé ?
Personne l'a su. J'en ai pas parlé. Puisque, de toute façon, il fallait qu'on attende ces 3 mois, ces fameux 3 mois, pour en parler, quoi. Pour le coup, j'étais tellement contente, j'avais tellement envie de le créer sur tous les toits. C'est mon conjoint qui m'a dit « Calme-toi, on va voir si tout se passe bien, il vaut mieux attendre les 3 mois, etc. » Il a eu raison. Moi, je voulais pas attendre, je sais pas pourquoi. Je voulais vraiment, exprimer mon sentiment de c'est quand même un truc de dingue ce qui va nous arriver. Sauf que, pas longtemps après, il y a eu la fausse couche. Et là, je me suis dit, finalement, il avait peut-être raison. Après, certains proches qui l'ont su m'ont dit... Pourquoi tu nous en as pas parlé ? Je sais pas, parce que, alors d'un, j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie d'annoncer de mauvaises nouvelles... Peut-être que la femme, en fait, elle en a besoin, elle a peut-être besoin de soutien. Et je pense qu'en gros, la société fait qu'on minimise, en fait, ce risque-là. Ah, c'est bon, c'est rien, on recommencera. Ouais, sauf que y a la psychologie, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, il n'y a qu'en passant par là qu'on peut le comprendre. Et au fil des mois, je me suis rendu compte que, à cette époque-là, on a fait ça. La vraie Sabrina, elle n'aurait pas fait les choses ou dit les choses de la même façon. Et je pense que oui, la vraie Sabrina, elle est débordante, elle parle beaucoup, je suis a priori une personne dynamique. Et on m'a trouvée plutôt isolée, qu'est-ce qu'elle a ? Et mon conjoint, pareil. Ça, j'y ai pensé plus tard et je me suis dit, ça nous a vraiment perturbés en fait. Et on s'en rendait même pas compte sur le moment.
Je suis Mehdi Kellouf, âgé de 38 ans, concubin de Sabrina Dos Santos. On a essayé de faire un enfant plusieurs fois, comme vous l'avez compris. Celle que je retiens le plus, où on a détecté avec le docteur Ben Simon des jumeaux, donc deux poches. Mais aucun... Comment on dit ? J'ai perdu les mots.
Aucune activité cardiaque.
Aucune activité cardiaque. Là, ça a été un petit peu un froid glacial dans cette salle, en tout cas. Cette fausse couche-là, avec donc deux poches, j'en ai parlé à personne. Une chose est sûre, c'est que lorsque je suis sorti du bureau du docteur Ben Simon, ce jour-là, j'étais très très mal. Je m'attendais à quelque chose de positif et en fait, en 2 secondes et demie, je suis redescendu de 6 étages. En sortant du bureau, j'avais pas de mots. Je la regardais, je m'en regardais, sans avoir de mots à poser sur la situation. Je pense que Sabrina non plus. Et puis le lendemain, et le surlendemain, on a commencé à en reparler un petit peu. C'est là où je lui ai dit, et je lui ai toujours dit, on va y arriver. On ne peut pas rester là-dessus, et donc on va y arriver. Et ces mots-là sont très simples, mais aujourd'hui c'est le cas. Donc aujourd'hui c'est tout ce que j'attendais. 38 ans, c'est tout ce que j'attendais.
Vous installer en mettant les jambes. Voilà. Sinon, après, vous tirez sur les abdos. Voilà, merci. Alors, attendez, je pâle pour savoir où elle est. Je suis le docteur Joël Ben Simon, je suis gynécologue, installée depuis 34 ans. Une fausse couche, c'est une grossesse qui s'arrête. On dit fausse couche spontanée quand c'est avant 14 semaines d'aménorrhée. 80% des grossesses se poursuivent, donc il y aurait 20% de grossesses qui s'arrêteraient. C'est beaucoup, c'est vraiment le quotidien des gynécologues. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup, pour plusieurs raisons à mon avis. De la part du corps médical, on sait que quand une grossesse s'arrête, on ne fait rien pour la sauvegarder. Si une grossesse est arrêtée ou qu'elle bat de l'aile dès le début de la grossesse, on ne va rien faire pour la sauver. Parce qu'on sait que c'est une grossesse qui est de toutes les façons destinée à s'arrêter. Donc nous, en tant que médecins, on est déjà renvoyés à un premier échec. La deuxième chose, c'est que médicalement, les femmes se remettent facilement de leur fausse couche. Certes, elles saignent abondamment. S'il y a une petite anémie, on compense avec du fer. Mais physiquement, elles se remettent très bien. Par contre, psychologiquement, là, c'est une autre affaire. Les femmes ont la maîtrise de la contraception. Le jour où elles veulent une grossesse, jusqu'à présent, elles avaient tout maîtrisé. Et puis, la grossesse s'arrête et elles n'y peuvent rien. Donc, ça leur échappe. Elles avaient peut-être projeté la grossesse, elles avaient déjà idéalisé le bébé, et d'un coup, boum, ça s'arrête et c'est très compliqué à gérer. La première chose qu'elles se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que la grossesse s'arrête? En quoi je suis responsable de cette fausse couche? Est-ce que j'ai bu trop de café? Est-ce que j'ai fait du sport? Est-ce que j'ai fait un voyage? Est-ce que c'est de ma faute? Alors là, on les rassure, elles ne sont pas responsables, c'est Dame Nature qui a fait ça. Et je me souviens que Madame Dos Santos, elle était en colère, elle me disait « Mais pourquoi ça n'a pas marché? J'aimerais savoir, expliquez-moi !» Je n'avais pas d'explication malheureusement, c'est comme ça.
Médicalement,
oui.
Qu'est-ce qu'on sait des causes qui provoquent un arrêt de la grossesse dans le premier trimestre?
Alors, dans le premier trimestre, le plus souvent, ce sont des anomalies chromosomiques. Vous savez que les chromosomes sont formés de deux brins. Il y a un brin qui vient du papa et un brin qui vient de la maman. Les deux brins s'appareillent comme une fermeture éclair. Et bien, il y a une fermeture éclair qui est décalée. Là, la nature fait bien les choses. La grossesse n'était pas destinée à une viabilité et elle est éliminée. En tout cas, pour les fausses couches précoces, on dit que c'est souvent des anomalies chromosomiques et qui ne se reproduisent pas. En gros, quand une femme a eu une grossesse, une première fausse couche, elle a 90% de chances que la grossesse suivante soit normale. Quand une femme fait une fausse couche, c'est qu'elle a été enceinte. Et donc, si elle a été enceinte, c'est que ça marche. Ça veut dire qu'elle a eu une ovulation, que les trompes sont perméables. On essaye toujours de positiver en disant « mais ça a marché ». Et même si c'est une fausse couche, n'empêche, elle a été enceinte.
Vous pratiquez depuis 34 ans, vous avez dit ?
Oui.
Est-ce que vous avez trouvé que, au fil du temps, les réactions ne sont pas les mêmes ?
Je pense qu'il y a une différence. Peut-être qu'avant, les femmes n'osaient pas parler. Elles n'osaient pas dire qu'elles souffraient. Autrefois, les médecins disaient « bon, ben voilà, vous avez fait une fausse couche, allez, vous recommencez dès que vous êtes prête et puis on n'en parle plus ». Et moi, je pense qu'il y a une temporalité, qu'il faut laisser le temps aux femmes de se remettre d'une fausse couche. Je pense qu'il ne faut pas banaliser la fausse couche. Il faut entendre la femme, l'écouter, lui dire « bon, ben voilà, qu'est-ce que vous avez à me dire? Est-ce que vous vivez mal? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que, vous voyez, qu'est-ce que ça réveille chez vous ?» Et cette écoute, elle est pendant la fausse couche, mais elle est aussi sur la grossesse suivante. Parce que lors de la grossesse suivante, il y a une réactivation de ce qui s'est passé. Et lors de la grossesse suivante, il faut aussi la rassurer. On fait peut-être un petit peu plus d'échographie pour être sûr que la grossesse évolue bien. On l'accompagne, quoi, un peu plus.
En tout cas, fausse couche, pour moi, ça veut rien dire. Fausse couche, ça veut rien dire.
C'est vrai, hein?
Si la parole se libère peu à peu, nous avons derrière nous des siècles d'omerta sur le sujet. Des siècles que Jacques Gélis, historien anthropologue, a explorés. Il n'y a d'ailleurs presque aucune trace jusqu'au XVIIe, avec les premiers médecins accoucheurs qui commencent à témoigner avec le vocabulaire spécifique d'une société encore très rurale. Amélie Tullé et Stéphane Foulon ont rencontré Jacques Gélis chez lui, dans l'Essonne.
Bonjour. Bonjour. Vous en prie.
Merci beaucoup.
Vous pouvez
très facilement.
Merci beaucoup. C'est courageux de venir dans une banlieue déjà lointaine.
Mmh.
l'énoncé des termes, c'est tout à fait essentiel, vous allez voir. Un embryon, par exemple, de quelques semaines, on dit qu'il est gros comme une grosse fève de haricot. Ou encore qu'il ressemble à une mouche à miel, c'est-à-dire une abeille. Hein. Ou alors on dit que c'est une petite vessie pleine d'eau de la grosseur d'un œuf de poule, dans laquelle était un enfant bien vivant de la grosseur d'un hanneton. Et ainsi de suite. Lorsqu'intervient une fausse couche, on dit que la fleur a coulé. Ou alors on dit que la femme se foule. Et on dit qu'elle perd son fruit. Tout simplement parce que la femme est quand même la dépositaire de l'espèce. C'est vu comme ça. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une société qui est sans arrêt sous tension, avec des périodes d'épidémie, avec des périodes d'insuffisance alimentaire. Et en ayant toujours à l'esprit, par exemple, qu'au niveau des enfants, on perd un enfant sur quatre avant un an. Et on en perd deux avant 20 ans. Ça explique quand même beaucoup, je pense, l'attitude des femmes par rapport à la fausse couche. On accepte tous les enfants que Dieu ou la nature vous envoie. On en a beaucoup, mais on en perd beaucoup. Et parfois, des familles qui ont eu jusqu'à 6-7 enfants se retrouvent avec un seul enfant lorsqu'ils arrivent à l'article de la mort. C'est-à-dire qu'ils ont un bâton de vieillesse au lieu d'en avoir plusieurs, vous voyez. Et donc, perdre un fruit, c'est ressenti comme étant quelque chose d'insupportable, si vous voulez. La femme a le sentiment d'avoir rompu une sorte de contrat, puisqu'elle est là pour faire des enfants et faire en sorte que la société se perpétue. Elle culpabilise d'autant plus, si vous voulez, cette femme. C'est la raison essentielle qui explique pourquoi on ne parle pas des fausses couches. Il y a toujours une très grande discrétion. L'accouchement qui est prématuré est caché, même parfois au mari. Mais c'est aussi le destin de l'enfant. On en vient au problème du baptême. Le drame, si vous voulez, de la femme et du couple, lorsque le fœtus vient à couler, c'est que ce petit fœtus n'est pas ondoyé. On ne va pas sur les fonts baptismaux, bien sûr, lorsqu'on a un petit fœtus gros comme une mouche à miel ou comme un hanneton dans un mouchoir, on l'ondoie. Si tu es vivant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. On considère à partir de ce moment-là que l'enfant est sauvé à la vie éternelle. Parce que c'est le gros problème. L'enfant, il faut qu'il soit absolument sauvé à la vie éternelle. Il y a cette idée que si le produit de la fausse couche, s'ils n'ont pas reçu l'onction sainte, ils ne peuvent pas être enterrés dans le cimetière familial. Et c'est donc ressenti comme une espèce de double peine, si vous voulez, par les parents. Parce que d'un côté, bon, il y a le regret, la peine de voir cet enfant qui n'est pas arrivé à la vie. Et puis, il y a cette idée qu'il va être exclu de la communauté. Et vous voyez, quand je rappelais tout à l'heure l'importance de la responsabilité de la femme par rapport à la communauté, c'est ça aussi. Ne pas être capable de mener un enfant à terme, c'est aussi casser quelque chose, se mettre en porte-à-faux par rapport à la communauté.
Aujourd'hui encore, l'arrêt spontané d'une grossesse dans le premier trimestre malmène les femmes et les couples. Une douleur souvent difficile à définir et à nommer. Agnès Segura est psychologue, elle est installée à Besançon. Elle a consacré sa thèse à l'impact d'une fausse couche précoce sur le vécu de la grossesse suivante.
Généralement, ce que j'ai observé, c'est que se développe une hypervigilance à tous les signaux en lien avec la grossesse et que ça va être interprété très souvent comme un potentiel risque de fausse couche. Donc si, par exemple, on a beaucoup de nausées et que on commence à en avoir un peu moins, il y a une inquiétude qui va se mettre en place, dire peut-être que ma grossesse est en train de s'interrompre. Même si, par exemple, on décide de faire un peu plus d'échographie, rien ne nous garantit que tout se passe bien à l'intérieur du ventre maternel. Donc il y a une perte de repère. Ce que moi j'ai pu découvrir dans ma recherche auprès des femmes que j'ai rencontrées, c'est que cette angoisse ne s'arrêtait pas au premier trimestre et continuait en fait jusqu'au seuil de viabilité du fœtus. Tant que le fœtus ne peut pas survivre à l'extérieur du ventre maternel aidé par le médecin, il y a cette angoisse de pouvoir le perdre, c'est-à-dire que ça s'arrête. À un moment donné, qu'est-ce qui va me garantir que le cœur va continuer de battre ? Par contre, quand le seuil de viabilité était dépassé, j'observais un apaisement des angoisses et là, un travail psychique de représentation qui pouvait se faire. Alors qu'avant, il y avait comme un gel des représentations maternelles, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'imaginer le bébé. On ne le pense pas, on ne se dit pas, bah, tiens, Noël, il sera là, ou comment il va être avec son frère, ou sa sœur. Ça se bloque. Il n'y a pas eu le même vécu au niveau de la fausse couche, pour autant, il y a quand même une grande souffrance aussi chez les pères. Et finalement, tant que le bébé n'est pas là, alors eux, ça se prolonge jusqu'à la naissance, tant qu'il n'est pas là, eh ben, on ne sait pas. Et parfois, après la naissance, une hypervigilance au développement du bébé, dans les premiers mois, de se dire, est-ce qu'il a bien tout ? Il y a comme ça une angoisse du côté des pères, mais qui s'exprime de manière différente.
Selon vous, comment on pourrait améliorer la façon dont on parle de cet événement dans la société ?
Alors, pour moi, ça rejoint la question du prendre soin. Prendre soin d'un autre, c'est pouvoir accueillir la souffrance d'un autre, sans dire ce qui est légitime ou pas. Même si la fausse couche est un événement fréquent, prendre le temps, quand on annonce la fausse couche, de trouver des mots, de peut-être pouvoir en reparler. En tout cas, moi, ça m'a fait écho avec aussi le fait de vouloir quantifier la souffrance humaine. Vous voyez, c'est-à-dire que finalement, dans le premier trimestre, c'est pas encore un fœtus, c'est pas encore un bébé, c'est un embryon. Il faut savoir qu'avant 22 semaines d'aménorrhée ou quand l'embryon a un poids inférieur à 500 grammes, il est considéré comme une pièce anatomique comme les autres. Voyez ? Mais tout ça, c'est en lien aussi avec le statut juridique de l'embryon qui permet de faire des recherches dessus, voilà, etc. Et du coup, ben, c'est ça qui va dire que c'est légitime ou pas. Ah, ben, je ne sais pas si on peut quantifier. Enfin oui, je sais qu'on ne peut pas quantifier la souffrance humaine. Ce n'est pas possible. Peut-être qu'on a peur d'accueillir la souffrance. Je crois que la médecine a beaucoup à faire avec la souffrance et qu'il y a peut-être de moins en moins d'espace aussi pour soutenir les professionnels médicaux dans cette souffrance-là. C'est-à-dire qu'on peut voir aujourd'hui des professionnels qui travaillent avec la mort toute la journée, qui n'ont pas d'espace pour après parler de ce qu'ils ont ressenti.
Est-ce qu'il faut forcément voir un ou une psychologue quand on a vécu une fausse couche précoce ?
Non. Non, c'est pas forcément un psychologue, pas forcément voir quelqu'un d'ailleurs en particulier. Il faut aussi respecter le temps psychique de la personne. Peut-être que c'est pas le moment, peut-être que ça se fera plus tard, peut-être que ça se fera jamais. En tout cas, ce qui est, je pense, important, c'est que ces espaces-là existent. Je crois que ce qui compte, c'est que ça existe et que la personne, elle a la possibilité d'y aller. Après, c'est son chemin à elle, c'est sa temporalité à elle, et c'est important de le respecter.
Aux urgences de la maternité des Diaconesses à Paris, tout est fait pour une meilleure prise en charge. Temps d'attente est réduit, il n'y a que des médecins expérimentés et deux psychologues à mi-temps qui se relaient. Il existe aussi des groupes de parole pour les parents qui ont vécu ces arrêts de grossesse. Malgré tous ces efforts, c'est parfois jusque dans l'agencement des locaux que réside le problème. Nous sommes accueillis par Jacques Famavan, cadre sage-femme.
Interception sur France Inter.
Au Diaconesse, les patientes arrivent aux urgences directement et en effet, la salle d'attente, elle est commune.
Donc une femme qui est en train de faire une fausse couche, elle attend
peut être à côté d'une femme qui est en train d'avoir ses premières contractions. C'est clairement difficile.
Si je suis dans le premier trimestre de ma grossesse et que j'ai des signes qui me font penser que je suis peut-être en train de vivre une fausse couche, où est-ce que j'arrive ? Qui me prend en charge ?
Qui va prendre en charge ? On va avoir notre infirmière sur le secteur de la gynécologie et on va avoir le médecin de garde qui va vous voir dans les box de gynécologie. On va vérifier en échographie la présence d'un embryon, d'un fœtus, pour savoir exactement ce qui se passe et pourquoi vous saignez. Alors, dans le meilleur des cas, on va se dire « Oh, c'est un petit saignement, c'est rien du tout. Vous avez eu un rapport sexuel il y a quelques heures et il y a un petit bouton qui sur le col qui s'appelle un ectropion qui peut saignoter et puis ça peut être carrément ça. » Après, dans le cas le plus difficile, on peut se dire que c'est si en effet il y a un hématome qui est apparu, un hématome en face du placenta qui provoque en fait une fausse couche, un décollement.
Qui le dit ? Comment on le dit ? Comment ça se passe à ce moment-là ?
En général, c'est l'échographiste en fait qui va faire l'annonce. L'échographiste qui, dans nos urgences gynécologie, forcément, c'est le gynécologue de garde qui va annoncer au couple que la grossesse est arrêtée.
Est-ce qu'on a le temps de faire les choses doucement ? Comment ça se passe ?
L'idée est d'essayer de prendre son temps. Malheureusement, on est aux urgences, donc des fois, les urgences font que, on court. C'est le principe même des urgences, on ne sait pas ce qui nous attend derrière notre porte. Mais la meilleure des médecines, c'est aussi de savoir prendre son temps pour pouvoir discuter, parce qu'on reste des humains et qu'il faut que l'humain communique avec l'autre. Et c'est ça qui est important.
Vous pratiquez depuis 10 ans, comment vous voyez les choses évoluer sur ces questions-là ?
J'ai vu des pratiques où on était assez brutal où on prenait pas son temps, on pouvait dire de façon très crue, la grossesse est finie, voici les médicaments, et puis on fermait la porte et on passait à la patiente suivante, au couple suivant. Et puis de plus en plus, il y a des équipes qui commencent à travailler sur l'éthique, sur les sciences humaines, et de se dire que c'est peut-être pas la meilleure manière en fait d'exercer, et que prendre son temps, ça fait aussi partie du soin.
Qu'est-ce que vous pensez du terme « fausse couche » ?
C'est comme si ça n'existait pas. C'est le terme de « bon, c'est pas une vraie grossesse en fin de compte, ça n'a pas existé ». C'est vraiment le terme de « oh, on va oublier ». Je crois que dans le terme de « fausse couche », on entend ça aussi. « Bon, bah, y a rien, c'est pas grave, on passe à l'eau suivante ». Et je pense que c'est pas vraiment le bon terme. Euh, 10h65, on va essayer d'avoir la gynéco de garde. Ça va ?
Ça commence bien, hein, ça commence sur ça, justement.
Quoi, t'as une fausse
couche un peu compliquée, une patiente qui est laissée un peu de côté, qui n'est pas très contente, c'est ce que je comprends. Hop. Je mets juste un petit message sur le groupe et j'arrive.
Yep. Hop. Attends.
Je suis le docteur Bec-Mézian, je suis une des gynécologues obstétriciennes du service. Il y a un sas, on a une patiente qui sort du bloc de césarienne, va en salle de réveil. Quand on va faire une aspiration pour une grossesse qui s'est arrêtée, la patiente va en salle de réveil. Donc il faut imaginer que la patiente qui est enceinte et qui a accouché a un enfant à côté d'elle et que la patiente à qui on a fait une aspiration n'a pas d'enfant à côté d'elle. Donc voilà, on n'a pas deux salles de réveil complètement séparées. On essaye de les mettre dans une autre petite salle de l'autre côté, en fait. Mais si le bébé pleure, le bébé pleure. Voilà. Donc ça, par exemple, est-ce qu'on peut faire autrement ? Oui, on devrait. Est-ce qu'on peut techniquement avoir, avec les locaux et tout, et la possibilité de surveillance de nos patients, est-ce qu'on peut faire autrement ? Non. On n'a qu'une infirmière de salle de réveil pour surveiller toutes les patientes. Donc là aussi, c'est peut-être que les locaux, en fait, ou l'institution peut être violente, mais est-ce que les soignants eux-mêmes sont violents ou peuvent changer leur pratique ? Ben, on a trop d'impératifs. Donc c'est ce qui rend aussi la prise en charge difficile.
On rentre dans le bloc opératoire.
Si la grossesse est avancée et si les patientes sont au-delà de 26 semaines, ce sont les sages-femmes qui viennent prendre en charge les patientes initialement. Et par contre, quand elles sont au premier trimestre de la grossesse, ce n'est pas les sages-femmes qui accueillent les patientes, ce sont les médecins eux-mêmes, puisque les sages-femmes ne gèrent pas la pathologie gynécologique. Et donc, le médecin vient accueillir la patiente. Alors après, tout dépend du médecin. Hein. Évidemment, on a autant de relations médecin-patient que de patient et que de médecin. Donc, je pense que tout dépend de la présentation de chacun et tout est important malheureusement dans la prise en charge. Et ça, je pense que les soignants ne sont pas forcément trop sensibles à tout ce qui est en dehors du médical.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Le bonjour, se présenter, sourire. Quand c'est 4h du matin avec nous, on n'a pas arrêté de la nuit, ne pas soupirer, ne pas lever les yeux au ciel parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est fatigué. Et malheureusement, c'est réel, ça arrive. Mais ce n'est pas assez se projeter dans la relation médecin-malade. Pour que la patiente aille mieux sur le plan médical, il faut aussi la prendre en charge sur le plan psychologique. Tout ce qui est de l'accueil, de l'explication. Et puis, ça peut être aussi de l'ordre de la consolation, c'est-à-dire pas très scientifique et médical, mais de dire, oui, on entend votre tristesse. Malheureusement, c'est fréquent, donc ne pas aussi inquiéter trop les patientes, parce que oui, c'est triste, mais ce n'est pas grave. Dans le sens où ce n'est pas forcément une maladie maternelle, ce n'est pas forcément une anomalie fœtale, ça peut arriver. Les fausses couches du premier trimestre, ou plutôt les arrêts de grossesse au premier trimestre, c'est fréquent. Donc il ne faut pas banaliser, mais il ne faut pas non plus... il faut dire que c'est des choses qui arrivent, que ce n'est pas quelque chose que la mère a fait aussi, parce que ça, il y a beaucoup de culpabilité des patientes. Alors, les fausses couches, c'est fréquent. Les modalités de présentation des fausses couches sont différentes. Il y a les fausses couches qui... Les premiers trimestres qui arrivent avec des contractions, des saignements, qui sont tordus de douleur. Et puis il y a des femmes qui arrivent pour leur écho du premier trimestre et puis on découvre que la grossesse est arrêtée. Et c'est la même maladie, c'est la même chose.
Est-ce que vous avez fait évoluer votre pratique sur cette question du temps d'écoute au fil des ans ?
Alors après, ça dépend aussi du niveau de responsabilité qu'on a, en fait. Quand j'étais interne en gynécologie, donc on fait 5 ans de spécialisation, et les internes travaillent beaucoup tout le temps. À l'époque où je travaillais, j'avais pas de repos compensateur, donc ça veut dire qu'on passait 24 heures non-stop aux urgences à voir des patientes qui arrivaient pour des choses très graves, c'est-à-dire qui mettaient en jeu leur pronostic vital, des grossesses extra-utérines, des patientes qui avaient des césariennes, des morts in utero, des choses problématiques pour la famille et pour l'obstétrique. Et donc les fausses couches du premier trimestre, c'est vrai que... Alors, je pense qu'aussi, il y a ça qui a joué sur mon changement de prise en charge et d'écoute. Le fait qu'on travaillait énormément et que ça venait parasiter, entre guillemets, le travail qu'on faisait. Et puis il y a aussi le fait que moi j'ai eu des grossesses et que je pense que ça joue aussi sur la prise en charge d'une patiente enceinte, d'avoir été enceinte, qu'on ait ou pas fait une fausse couche hein, d'ailleurs, mais qu'on se soit rendu compte de l'importance que ça peut représenter et qui n'est pas du tout quelque chose de palpable en fait. Puis c'est pas la même chose chez toutes les patientes. La réaction des femmes face à une grossesse qui s'arrête au premier trimestre dépend aussi beaucoup, beaucoup de son histoire et de l'investissement qu'elle a eu de sa grossesse et donc de son histoire personnelle, obstétricale ou même dans l'enfance. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui interviennent et je me suis rendu compte plutôt récemment, c'est-à-dire depuis que je suis ici en fait, que j'ai un petit peu plus de temps pour asseoir ma pratique, que c'est très important en fait d'entendre cette histoire de vie et de refaire le parcours avec elle pour pouvoir mieux les prendre en charge sur le plan médical.
Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer, vous pensez, structurellement?
Bah, de toute façon, bien sûr, il y a quelque chose à améliorer structurellement. Après, ce qu'il faut aussi que les gens aient dans la tête, c'est que les gens qui sont à l'hôpital, les soignants, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue et qui sont dans la voiture quand ils sont coincés dans les embouteillages et qui râlent, en fait. C'est les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des cons partout, en fait. Et il y a des gens qui ne savent pas parler aux patients partout. Et c'est pas en gynécologie, je trouve que le gynéco-bashing, par exemple, qui est sur le devant de la scène, n'est pas justifié parce que cette prise en charge et cette absence d'écoute et de formation à l'écoute, elle est dans toutes les spécialités. Et en fait, en vrai, elle est dans tous les métiers. C'est beaucoup plus important à l'hôpital où les patients sont affaiblis, sont pas dans leur état normal et puis sont dans la dépendance du soin. Donc c'est pas la même chose, mais moi je trouve que c'est vrai à toutes les échelles en fait de la société. Il y a un gros effort à faire sur la formation, mais moi j'ai pas eu de formation. Il y a aussi un gros effort à faire sur soi et puis sur penser qu'on n'a pas la vérité absolue et que la pratique de la médecine, elle évolue, quoi. Les gens, ils peuvent pas dire, ça fait 35 ans que je fais la même chose, je vais continuer à faire la même chose. Non, il faut changer. Et ça, c'est pas forcément de l'ordre de la formation, c'est aussi de l'ordre de se rendre compte individuellement qu'il faut améliorer sa pratique et que... Parce que moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, on nous disait, la prise en charge, c'est une prise en charge globale du patient. On nous disait pas, vous soignez cet organe. Hein. C'était déjà, dans la formation, il était dit, il faut tout prendre en compte. Après, est-ce qu'on avait le temps de le faire? Est-ce qu'on nous donnait les moyens de le faire? Les moyens humains, le nombre de soignants suffisants pour le faire? Non. Donc en fait, on nous demande de faire... Il y a une injonction à ça, sans nous donner aucun moyen, que ce soit financier ou humain, ou dans la formation pour le faire.
Nous allons maintenant suivre le docteur Anaïs Beck-Mézian jusqu'au bloc opératoire. Une patiente est là, qui vient de vivre une fausse couche et qui va subir une intervention, une aspiration, c'est le nom, pour enlever les tissus qui n'ont pas encore été évacués et qui pourraient provoquer une infection.
Je suis avec la journaliste qui est derrière. Bonjour. Elle va rien regarder. Elle va rester juste là.
Ok.
Donc moi, je vais me laver les mains. Quand je vais rentrer, vous serez encore éveillée.
Ok.
Le temps qu'on m'habille, l'anesthésie est très courte.
Oui.
Dès qu'on vous endort, ensuite on installe les jambes en position gynécologique. Lucie, l'infirmière, a amené l'appareil d'échographie pour, comme je vous ai expliqué, que je vérifie avec, oui. Avec l'échographie qu'il ne reste rien du tout dans l'utérus. Ça va durer une dizaine de minutes. Et puis après, vous allez vous réveiller. Vous allez avoir un petit peu mal au ventre, oui. Comme des contractions, comme des règles, pas plus douloureux que ça.
D'accord. Et il y a le sang qui va sortir.
Un petit peu. Ça va saigner un petit peu pendant quelques jours. Pas abondamment. Vous ne devez pas avoir trop mal, vous ne devez pas saigner trop, vous ne devez pas avoir de fièvre, vous aurez des petits saignements pendant quelques jours.
Ça marche.
Ok ? Donc après le bloc opératoire, vous allez aller en salle de réveil pendant une heure et demie, qu'on surveille que vous vous réveillez bien, que vous n'avez pas mal, que vous ne saignez pas. Et ensuite, on vous remet là où vous étiez au début, au quatrième étage.
Ok.
Vous vous reposez un peu, vous mangez un petit truc et je viens vous voir en début d'après-midi pour voir si tout va bien avant votre sortie.
Ok.
Ça vous va ?
Ça me va.
Ok. Bon, allez, on y va. Je me lave les mains.
Alors, je vais mettre un peu masque sur le visage et l'oxygène, d'accord ?
D'accord.
Voilà, comme ceci, parfait.
Ah oui, ça peut faire cette masse.
Je fais un petit médicament pour vous détendre, madame, vous allez voir. Vous allez sentir que la tête va être un petit peu légère. Et je vous préviens quand vous endors, d'accord?
C'est rapide, hein. L'anesthésie, une très courte anesthésie générale. La plupart du temps, elles ne sont pas intubées. Et ça dure... c'est un geste qui se complique assez peu, mais après, il y a quand même, dans tout geste chirurgical, il y a des risques, hein, des risques per-opératoires, pendant le geste opératoire. Donc quand on a une grossesse qui s'arrête très tôt, et que l'embryon n'est pas très gros, et que le sac est petit, on essaye quand même toujours la technique médicamenteuse. Essayer de leur donner des médicaments, pour leur donner des contractions, pour qu'elles évacuent spontanément, en fait. Et c'est seulement si la grossesse est trop avancée ou s'il y a un échec de la thérapeutique médicale, si ça ne fonctionne pas, bah pareil, on programme l'aspiration. Je pense que l'anesthésie générale, c'est pas mal pour une aspiration. Pour une césarienne, pour accueillir son enfant, pour autre chose, non, mais là, enfin, c'est pas un moment très heureux. On va changer.
Pour aider les soignants à mieux accompagner les femmes et les couples confrontés à une fausse couche, l'association AGAPA organise des formations qui leur sont dédiées. Des espaces où sages-femmes, infirmiers, aides-soignants et médecins peuvent aussi dire leurs propres difficultés à trouver les mots pour en parler. AGAPA propose aussi des accompagnements, individuels ou en groupe, pour les parents. Dans les locaux parisiens de l'association, nous retrouvons Sybille et Natacha, toutes deux aidées par AGAPA.
Ah bonjour Natacha,
enchantée.
En fait je suis jamais venue ici moi.
Ah bon, et vous faisiez où alors?
Et ben, en fait comme moi j'ai jamais participé au groupe, j'avais un suivi individualisé et comme je suis à Chaville, elle me recevait à Boulogne à la maison des familles.
Ah, super.
Donc je connais pas leurs locaux.
Bon. Et ben je crois que l'autre personne, les deux autres personnes sont déjà là.
D'accord.
Vous pouvez entrer.
Enchantée Amélie.
Alors je m'appelle Sybille, j'ai 40 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 ans et là je suis enceinte actuellement de mon deuxième enfant et il se trouve que j'ai fait 3 fausses couches entre la naissance de ma fille et donc la grossesse que j'attends, enfin que je suis en ce moment. Quand j'ai fait mes différentes fausses couches, j'ai ressenti un gros vide sur le côté accompagnement psychologique. Et mes deux premières fausses couches, en fait, je me suis pas trop posé la question parce qu'elles étaient arrivées assez tôt, on va dire, dans la grossesse. Et donc, en fait, j'ai compensé en travaillant beaucoup et puis en n'y pensant pas et puis en étant plus en mode... on pense à autre chose et puis voilà, c'est pas grave, on va de l'avant. Sauf que ma dernière fausse couche a été beaucoup plus traumatisante et en fait, j'ai senti que si je n'étais pas accompagnée, je perdrais pied. Vous savez, quand, enfin, vous savez peut-être pas, hein, mais donc, quand on a l'impression de tomber dans la folie, en fait... Et je pense que j'étais vraiment à cette frontière. Et je me suis dit, là, je ne peux pas y arriver toute seule. Ce n'est pas possible. Et en fait, j'ai été tellement surprise par le fait qu'on me dise, ben, voilà votre ordonnance pour les antidouleurs. Et basta. Donc, on était très sur du physique. Mais je me suis dit, mais moi, dans ma tête, je ne vais pas bien, en fait. Je n'avais aucune idée de à quelle porte taper. Enfin, c'est pas facile, en fait. Et donc, j'ai regardé... des associations, et donc c'est AGAPA qui est sorti en premier. Je pense que le lundi, je perdais vraiment le bébé, et le lundi soir, j'avais Laure au téléphone, qui est mon accompagnatrice, avec laquelle j'ai déjà pu parler pendant je sais pas combien de temps, mais qui était juste là pour écouter. J'avais besoin d'être guidée, en fait, et de manière à pouvoir vraiment prendre en compte que ces grossesses qui ont résulté en des fausses couches, c'est d'ailleurs terme que je hais au plus haut point, mais pour intégrer ces fausses couches dans votre parcours de vie, et pas non pas ce que j'ai fait pour mes deux premières fausses couches, de en gros les mettre sous le tapis, ne n'en parler à personne, parce que c'est ce qui s'est passé aussi, hein. J'avais juste ma famille très proche qui était au courant, mais sinon personne ne l'était. Ne plus avoir honte, je me suis rendu compte qu'en en parlant, en fait, il y a plein de gens qui le vivent, mais on ne le sait pas. Puis ça m'a permis aussi de prendre beaucoup conscience de choses que j'avais plus envie de faire, de choses que j'avais envie de faire. Enfin, c'était assez... je le souhaite à personne, hein, concrètement, de vivre ce qu'on a vécu, mais en fait, c'était assez fondateur. quand je suis allée à l'hôpital, alors j'ai été bien accompagnée d'un point de vue physiologique, mais la notion émotionnelle, c'était, ah non, c'était pas un sujet en fait. Pour vous dire à quel point, quand j'ai fait ma deuxième fausse couche, donc je devais être à 8 semaines de grossesse, on m'a juste donné voilà, des médocs, mais j'ai pas été arrêtée. Je suis sortie pour aller passer un entretien d'embauche. Je me suis littéralement vidée de mon sang pendant l'entretien. Mais à aucun moment, on ne m'a prévenue de tout ça. Et psychologiquement, je me suis dit, ouf, c'est un peu dur, ça. Mais j'ai mis mon mouchoir dessus et je suis passée à autre chose. Et sauf que, en fait, quand on prend un peu de recul, c'est dément, en fait. En fait, je me suis rendue compte qu'à partir de ma deuxième fausse couche, j'avais extrêmement peur. Mais une peur permanente sur ce côté, oui, mais si je suis enceinte et que je le perds, enfin, qui fait que quand j'attendais le bébé pour la troisième fausse couche, j'étais pétrifiée du début à la fin. Mais la peur permanente. Donc en fait, c'était comme en effet une cocotte minute qui a juste explosé quand j'ai perdu la troisième fausse couche.
C'est super mignon ici. Hein. Juste de le faire.
Alors super.
Quels sont les mots qu'il ne faudrait plus jamais entendre?
Une bonne liste.
Il y en a beaucoup. Hein.
T'en feras un autre. Ou moi pareil, j'ai des fausses couches entre mes deux garçons. Bah t'en as déjà, hein. C'est déjà bien, accroche-toi à ça.
Oui, ça c'est horrible ça.
Où on nie du coup totalement cette question de vouloir un autre enfant en fait. Bah c'est bien, t'en as déjà un. Moi, je l'ai entendu de la part d'un médecin à l'hôpital qui m'a dit « Bah déjà, vous avez de la chance, vous avez déjà un enfant. Ma femme a vécu 4 ou 5 fausses couches avant d'avoir notre premier. Enfin, » j'ai trouvé ça totalement déplacé. En fait, nous, je pense, en tout cas, moi, c'était juste mon besoin, c'était qu'on reconnaisse ma peine, quoi.
Ouais.
En fait, c'est une façon de nier et de dire « Bah, c'est bon, t'inquiète, t'en as déjà un. »
Et c'est pas grave. Et c'est pas grave.
Et le côté... moi, parce que c'est assez immonde ce que j'ai entendu, mais... Ah oui, vous avez votre sac qui est remanié. Moi j'ai dit mais mon sac à main. mais non et en fait la personne qui me faisait l'échographie, elle dit mais non vous voyez le sac là, donc oui vous faites une fausse couche. Donc le côté de parler en termes techniques que je ne comprenais pas en fait, juste hein, tout simplement. Le côté c'est pas grave. Ouais, en fait pour moi c'est grave, donc me dire que c'est pas grave c'est nier le fait que pour moi c'est important. Et oui, le côté t'en fais pas, t'en feras un autre. Alors ça, c'était magique, ça. C'est magique que ce soit du corps médical, des proches. Enfin, ça, faut bannir, ça. Hein.
Malheureusement, je pense qu'en fait, rien ne peut convenir. Et peut-être qu'il vaut mieux rien entendre, mais juste sentir que quelqu'un est là et qu'il est là pour écouter et qu'il comprend notre peine. C'est tout, en fait. Si vous perdez un bébé, c'est ça aussi la vision de la société aujourd'hui. Vous perdez un bébé avant que ça se voit, avant que ça se sache, avant que la sécu vous reconnaisse enceinte, c'est-à-dire... Bah, à partir de l'entrée dans votre deuxième trimestre de grossesse, concrètement, officiellement, vous n'êtes pas enceinte. Et en plus, il ne faut pas le dire. Donc, quand vous vous permettez de dire une grossesse arrêtée à moins de 3 mois, avant que ce soit officialisé, les gens vous regardent. Ouais, t'as fait une fausse couche, quoi. Ah, parce que du coup, c'est pas pareil. Enfin, moi, j'ai déjà eu cette conversation avec des gens que je considérais comme proches. Après, je suis pas en colère contre ces gens parce que je me dis, en fait, on est dans une société qui nous porte comme ça. J'ai fait aussi 3 fausses couches et on m'a donné des cachetons. J'ai demandé à être arrêtée. L'interne m'a très gentiment dit, tiens, ça c'est à rajouter sur la phrase. Dans les phrases qu'il ne faut pas dire, c'est ça va faire comme des grosses règles. Non, définitivement non. Et définitivement non, non. Même si c'est une grossesse très jeune, ce n'est pas comme des grosses règles. Et moi j'ai fait ma fausse couche j'ai pris les médicaments. Mais j'ai réellement perdu l'œuf le lendemain, en direct live au boulot, aller me changer toutes les demi-heures au travail et à voir ce que je perdais. Enfin, c'était pas des grosses règles. C'était un œuf qui était éjecté par mon corps, quoi. C'était. Bah, effectivement, bah, c'est une grosse perte de sang. Avec, on a des contractions, hein. Le corps, comme dans un accouchement, éjecte. Et moi, j'ai vu les membranes. Alors, c'était très très tôt, c'est pas un bébé que j'ai perdu, c'est un œuf. Donc, mais par contre, effectivement, j'ai vu ce que j'ai perdu, les membranes, petites, je sais même pas comment décrire ça, mais espèce de truc complètement gélatineux. Donc quand on vous prévient pas que vous êtes au travail, qu'on vous a pas arrêté et que vous vivez ça comme ça, non, je suis désolée, mais c'est pas ça, c'est pas normal. Et là, pour le coup, oui, j'ai pu être en colère ce jour-là.
La réflexion que je me suis faite derrière toute cette ouverture de parole, c'est de me dire, comment est-ce que je fais pour que ma fille, quand elle voudra avoir des enfants, que pour elle, ça soit un autre sujet, en fait. Je perds un bébé, parce que la vie fait que c'est ça, mais en fait, j'ai une société qui le comprend, qui accompagne, que ce soit au niveau du corps médical, que ce soit avec les familles, que ce soit avec les amis, que ça soit complètement ouvert. Moi, je refuse que ma fille vive les mêmes choses que j'ai vécues. C'est pas possible.
Fausse couche précoce, vraie souffrance. Un reportage d'Amélie Tullet. À la prise de son, Virginie Lorda et Stéphane Foulon. Réalisation, Charles de Cilia, assisté de Martine Messonnier. Mixage, Guillaume Roux. Un reportage à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr.